Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, donc j'aimerais qu'on puisse voir ensemble maintenant un premier message, un ensemble de choses que je voudrais communiquer sur les 10 commandements. Les 10 commandements, ça évoque quelque chose à chacun d'entre nous. Mais le titre pour aujourd'hui, j'aimerais que ça soit « Quelle place pour les 10 commandements dans notre vie ?» Est-ce qu'on est encore concerné ? Est-ce que ça a un impact quelconque ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vieux ou... C'est à voir. Beaucoup de gens parlent des 10 commandements et des fois on ne sait même pas lesquels ils sont. Et concernant la loi, dans notre société de droit, on dit souvent que la société évolue et donc la loi aussi, elle doit évoluer. La loi doit donc suivre la société. La loi doit s'adapter à la société qui bouge. C'est quand même quelque chose, une notion qui est intéressante. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des lois immuables ? On sait que dans des lois physiques et naturelles, il y a des choses qui bougent pas. La loi de la gravité, mais bon, on peut aussi faire quelque chose pour que la loi de la gravité ne s'applique pas. Mais bon, ça c'est juste une petite illustration. Mais en réalité, je pense qu'il y a aussi des lois qui sont importantes pour l'ensemble de l'humanité et qui ne bougeront pas selon les sociétés ou selon la mode ou selon l'humeur des gens. Et la Bible nous dit, dans 2 Timothée 3:16, un passage très important pour notre édification et qui établit des choses pour chacun d'entre nous, elle nous encourage à considérer toute la Bible comme intéressante pour nous. Donc dans 2 Timothée 3:16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, vous et moi, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc tout est intéressant, nous dit la Bible. Dans chaque partie de l'écriture, on peut y trouver quelque chose pour notre enseignement ou pour notre édification. Donc, et quand on le met en contexte des 10 commandements, c'est pas maintenant pour nous replonger dans quelque chose de légaliste, parce qu'on sait que régulièrement, il y a cette tentation de nouveau mettre les gens sous des carcans, des lois, des principes rigides, tout ça. C'est pas ça qu'on veut. Donc, avant de me juger, de dire voilà, encore du légalisme, on veut nous mettre sous une loi. Donc, voyons plutôt. Moi aussi, je connais le passage de la Bible qui dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. D'ailleurs, on va le prendre aussi. On va un peu feuilleter notre Bible ce matin et prendre plusieurs choses qu'on va lire ensemble. Donc dans 2 Corinthiens 3:6, cette fois-ci, il nous est dit que le Seigneur nous a rendus capables d'être ministres, c'est-à-dire serviteurs, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et tout le monde peut dire avec moi, il m'a rendu capable. Il m'a rendu capable. Chaque fois que vous avez des problèmes face à une situation, et ici vous pouvez trouver dans les Écritures un encouragement. Le verset juste avant, il dit « Notre capacité vient de Dieu ». Beaucoup de choses qu'on a l'impression on n'est pas capable, mais des fois on est quand même capable, mais on le sait pas encore. On ne sait pas tout ce qu'il y a en nous. Et même si on ne sait pas par nous-mêmes, nous avons en tant que chrétiens des ressources en nous qui sont extraordinaires et c'est lui qui nous rend capables. Donc il nous rend capables d'être serviteurs dans un nouveau cadre, dans une nouvelle alliance. Il nous est dit que l'ancienne alliance, la lettre, c'était une loi mais qui amenait à la mort, elle tuait. Donc on va voir un peu les détails de tout ça, mais l'esprit, il vivifie, il donne la vie. Donc, comment les 10 commandements ont-ils été donnés? Alors, maintenant, quand on a maintenant par la télévision, vous pouvez même regarder les débats du Parlement, tout ça. Vous voyez, ça discute, il y a des lois, on élabore des lois, on argumente, il y a des amendements, il y a des heures de réflexion, de discussion, des juristes, des batailles, etc. Et donc, c'est des fois très long jusqu'à ce qu'une loi puisse sortir. Mais les 10 commandements, ils ont été donnés d'une façon très simple. C'est Dieu lui-même qui directement les a donnés en une seule fois. Ça n'a pas été sur des années de réflexion. Qu'est-ce que ça serait comme bonne loi pour le peuple? Vous imaginez le contexte, le peuple d'Israël sortait de 400 ans d'esclavage. Les esclaves ne participent à rien du tout. Ils n'ont même pas besoin de réfléchir. On leur dit juste quoi faire. On les surveillait. On leur donnait le fouet quand il fallait. Et puis, ils mouraient à la tâche. C'est ça l'esclavage. C'est ça la réalité. Et donc, Dieu les délivre. Il les amène, pas tout de suite dans le pays promis, mais ils ont ce voyage à faire. Et pendant ce voyage, il donne un rendez-vous au leader du pays, de ce nouveau peuple, et dit, maintenant je vais donner des lois pour que ce peuple puisse former un tout et être dirigé d'une certaine façon. Et donc, Dieu lui-même a gravé ses lois sur des tables de pierre. Et c'était les 10 commandements. Après, il y a eu plein de prescriptions qui se sont rajoutées, des choses pour régler le quotidien. Mais les 10 commandements étaient donnés par Dieu. C'était pas une réflexion humaine. On l'accepte ou on l'accepte pas. Pour nous, c'est la parole de Dieu qui nous explique exactement comment les choses se sont passées. Dans les 5 premiers livres de la Bible, vous avez donc le livre de l'Exode, cette sortie d'Égypte, où il y a au chapitre 20 les 10 commandements, tels qu'ils ont été donnés par Dieu à Moïse. Mais il y a aussi, encore une fois, le Deutéronome, qui reprend un certain nombre de choses et qui est aussi un livre de la loi où certains aspects des 10 commandements et d'autres lois sont repris. Mais il y a quelque chose qui est admirable dans le chapitre 4 de Deutéronome. J'espère que vous allez être aussi enthousiastes que moi. Et donc, il nous est dit, voilà ce qui était prévu pour le peuple d'Israël. Le chapitre 4. « Maintenant, Israël, écoute les lois, les ordonnances que je vous enseigne. » Mettez-les en pratique afin que vous viviez. Tout à l'heure, on avait dit la lettre tue, mais les commandements étaient destinés à donner la vie, à ce qu'il y ait un peuple qui soit dirigé par des commandements qui étaient bons pour tout le monde. Je peux empiéter un peu, mais un commandement que beaucoup de gens connaissent, tu ne tueras point. Si ce commandement est appliqué, ça améliore quand même la vie des gens, on est d'accord avec moi. C'est évident. Donc, on n'a pas besoin de dire, oh non, mais est-ce qu'il faut vraiment observer ce commandement? Ben, si on ne l'observe pas, c'est la loi de la jungle, le Far West, c'est la loi du plus fort. Mais ce sont des lois qui veulent conduire un peuple à pouvoir vivre ensemble. Vivre, c'est le mot-clé. Que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Et donc, un peu plus loin, il nous est dit, je vous ai enseigné, verset 5, des lois, des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là, écoutez bien, votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. La plupart des peuples ont développé peu à peu des traditions, des ordonnances, des règles qu'ils ont adaptées au fur et à mesure qu'ils vivaient ensemble, ou selon le bon vouloir des dirigeants. Mais ici, il y avait comme une différence que les autres peuples, en voyant Israël, ils se disent « Oh, ça c'est vraiment un peuple particulier !» C'est ce qui est démontré ici. Ce sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Voilà la réflexion que devaient avoir les autres en voyant Israël et son système de gouvernement, de fonctionnement et de loi. Verset 7 « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est ?» de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Là encore, une idée, je pourrais dire, révolutionnaire. Dans beaucoup de religions, les dieux sont mystérieux, lointains. On ne sait pas quoi faire pour se rendre acceptable, pour leur faire plaisir, pour avoir leur faveur. Et même dans l'Ancien Testament, souvent les gens ont projeté cette idée d'un dieu lointain. Mais dans le Nouveau Testament, il est proche. Non, il y avait déjà là cette réalité que Dieu voulait être proche de son peuple. Et verset 8, « Quelle est la grande nation qui ait des lois, des ordonnances, juste comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ?» Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu pour cette introduction et cette présentation des 10 commandements. C'est comme ça que ça a commencé, et voilà quel était le but. C'était de dire, tiens voilà, un peuple qui appartient à Dieu, qui est différent et qui profite de sa sagesse. Donc pour nous maintenant, 21e siècle, chrétiens, nouvelle alliance, qu'est-ce qu'on peut faire des 10 commandements? Quel peut être encore l'impact de ces 10 commandements dans notre vie? Est-ce qu'on en a besoin finalement? Alors mon premier point, c'est que la loi n'a pas été abolie. C'est très important pour nous. Des fois, on a certaines réflexions, certaines personnes qui ont dit des choses, même qui font partie maintenant de notre culture. Comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la citation de Saint Augustin. Il aurait dit, moi je mets toujours au conditionnel parce que des fois on entend tellement de choses, il aurait dit « aime Dieu et fais ce que tu veux ». Voilà, il a résumé. Mais qui peut vivre avec ça ? Aime Dieu et fais ce que tu veux. Dans, si on y réfléchit très fort, c'est vrai que si vous aimez Dieu, que vous cherchez à lui plaire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que vous n'allez pas aller contre certaines choses que Dieu veut. Mais pour moi, je suis désolé, je porte un petit jugement si vous me permettez, je trouve que c'est un peu trop simpliste de l'exprimer comme ça. Je dis, la plupart du temps, on a besoin d'étapes intermédiaires pour arriver à cette perfection. Aime Dieu et fais ce que tu veux. Même l'apôtre Paul, il a dit dans 1 Corinthiens 8, tout est permis, mais tout n'est pas utile. D'accord? Si vous lancez quelque chose comme ça, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il a dit ces choses. Mais en même temps, est-ce que fais ce que tu veux, tout est permis, sont des bons signes que nous envoyons comme ça les uns aux autres pour nous aider à vivre de la façon qui va plaire à Dieu et qui va être bien aussi pour nous-mêmes et pour notre entourage. Donc, voilà, on a encore beaucoup d'autres choses, hein, et bien pire, hein, il est interdit d'interdire, etc. Mais Jésus a dit, et pour nous c'est ça qui est important, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est pas ce que Saint Augustin a dit, ce que Paul a dit, c'est plus ce que Jésus a dit. Si Jésus avait dit « c'est fini », plus besoin de 10 commandements, alors on pourrait peut-être, d'un revers de la main, enlever une bonne partie des pages de la Bible et dire « focalisons sur maintenant les paroles de Jésus ». Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que la loi serait abolie. Dans Matthieu 5, il présente les choses d'une façon très intéressante et très concrète. Au verset 17, il dit « ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu donc pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc un iota, c'est quoi? Voilà, c'est là. Plus petite lettre de l'alphabet, quoi. C'est symboliquement, ça veut dire une toute petite chose. Il n'y a rien qui va disparaître. Puisqu'il dit ça, en même temps, il rajoute, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Intéressant, qui les observera d'abord et qui enseignera à les observer, et pas du tout, et qui vous dira, voilà ce que vous devez faire. On est loin de cette simplification. Donc, il nous est dit ici, il ne faut pas supprimer l'un de ces plus petits commandements. Il ne faut pas les supprimer. Ça veut dire ils ont une valeur, ils sont intéressants, intéressants pour nous et utiles pour nous aussi. On continue. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Chacun d'entre nous, nous ne pensons pas seulement le royaume des cieux, c'est quand je meurs sur terre, alors j'entre dans le royaume des cieux. Mais je vis le royaume des cieux dès à présent. Je vis une réalité céleste. et je vis une réalité céleste dans la mesure où je suis capable de comprendre les choses que Dieu a mises en place. Et parmi ces choses, qu'est-ce qu'on peut faire alors des 10 commandements? Alors, on va faire maintenant une interrogation orale. Je ne sais pas si vous étiez préparés à ça, mais quels sont donc les 10 commandements? Donc, pour ceux qui sont aussi en train de regarder la vidéo ou d'écouter audio, si vous deviez prendre un papier ou écrire les 10 commandements, quels seraient les 10 commandements? Est-ce que je peux avoir un stylo, s'il vous plaît? Merci. Donc, je vous écoute. 10 commandements. Alors. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc, on en a un. Oui. Aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y est pas. Voilà. Non, mais c'est très intéressant. On continue. Continue ensemble. Voilà. Voilà, numéro 2. Numéro 4. Honore ton père et ta mère. Je vais le dire après vous, oui, sinon certains n'entendent pas. Alors. Jour de repos pour le sanctifier. Numéro 3. Pas de faux témoignages. Numéro 8. Ça fait rien, hein? Moi, je crois qu'on n'aurait pas été tellement bon ni l'un ni l'autre à, disons, dans un ordre scolaire d'interro, mais ça fait rien. D'une tuera point, voilà, c'est le numéro 5. Tu ne déroberas point, j'ai entendu, numéro 7. Tu ne convoiteras pas quoi? Voilà. Il y a deux choses, voilà. Le 9e, c'est tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Le 10e, c'est tu ne convoiteras pas aucune chose. Donc, il y a, désolé, mesdames, il y a la femme. La femme, le serviteur, la servante, le bétail, ni aucune chose. Mais nous ne sommes pas dans un contexte de relation homme-femme libérée en Jésus-Christ. Nous sommes dans un contexte de loi faite pour un certain peuple à une certaine période. Mais c'est quand même très intéressant de le... Donc, avons nous cité le 6e, l'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà, il a été... ça fait partie, par exemple, des lois qui sont élastiques maintenant, ou il y a quelque temps encore... Si quelqu'un voulait divorcer, on pouvait tenir en compte le fait que l'autre était adultère. Dans notre société, maintenant, c'est fini. Hein. L'adultère n'est plus quelque chose qui rentre dans un cadre de justification de divorce. Voilà, ça fait partie des lois qui bougent. Donc, grosso modo, on a quand même réussi ensemble à les avoir tous les 10. C'est pas mal. On est content. Alors, toutes ces lois sont, on va les relire ensemble. Parce que certaines, elles sont détaillées un peu différemment, mais ensuite on les regroupe. Je m'explique. Dans Exode 20, par exemple, on a les 10 commandements, mais Moïse n'a pas dit, voilà, le premier c'est celui-là, le deuxième c'est celui-là. Ensuite, on a trouvé que voici les 10 tels qu'on les retient. Donc Dieu se présente. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et donc la suite, ce n'est pas un autre commandement, mais c'est des choses qui en dépendent directement. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque dans les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc tout ça, c'est un commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais il y a beaucoup de choses qui en dépendent et qui sont directement en relation avec ce que nous venons de lire. Donc, ensuite, nous avons le deuxième commandement, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Le troisième commandement, « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. » Le quatrième commandement, « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ce commandement est repris par l'apôtre Paul, entre autres, dans Éphésiens, et il rappelle que c'est un commandement avec une promesse. Et il n'y a pas seulement celui-ci, mais en réalité, quand on le comprend, beaucoup de commandements ont une promesse. Tu observes les choses, ta vie s'en trouve améliorée. C'est pas juste, voilà, si tu le fais pas, la colère de Dieu va fondre sur toi. C'est pas ça le plus important. Remarquez bien par rapport aux générations. C'est vrai qu'on peut des fois avoir besoin de délivrance par rapport à des choses qui sont passées dans les générations. Mais on perd des fois le plus important de ce qui a été dit. La malédiction est sur 3 et 4 générations, mais la bénédiction est sur 1000 générations. Ça fait beaucoup 1000 générations. Mais ça montre quelque chose de la grâce de Dieu. Le péché abonde, mais la grâce surabonde. Donc la focalisation n'est pas à mettre sur la colère de Dieu ou sur la malédiction, mais de dire, mais la bénédiction de Dieu l'emporte largement sur la malédiction. Tu ne tueras point. Certaines personnes sont très choquées, je crois, dans les milieux juifs de cette interprétation de tu ne tueras point, puisque en réalité, paraît-il, parce que je ne suis pas un érudit en hébreu, c'est « tu ne commettras point de meurtre ». Ce n'est pas dans le sens que tu n'as jamais le droit de tuer en aucune situation. Mais c'est un peu différent. Et donc, « tu ne commettras point d'adultère », numéro 6, « tu ne déroberas point », numéro 7, numéro 8, « tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain », numéro 9, « tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain », numéro 10, tu ne convoiteras pas ce qui fait partie de toute sa vie de ton prochain, femme, serviteur, servante, bétail, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Donc voilà un petit peu le parcours tel que nous avons pu le faire sur les 10 commandements. On a donc vu que ce sont des bonnes lois. Ce sont, quand elles sont appliquées, elles permettent à un peuple de bien vivre ensemble. Alors c'est mon point numéro 2, mais ce sont des bonnes lois, mais elles sont inapplicables. Inapplicables, pas à cause des lois, parce que nous, dans notre pays, par exemple, on fait de bonnes lois, des fois, mais elles sont inapplicables parce que il faudrait des moyens énormes pour que des gens, au niveau judiciaire, au niveau policier, au niveau plein, puissent les mettre en application. Il faudrait vraiment contraindre les gens. Il faudrait vraiment faire des choses. Donc il y a des lois chez nous, des fois qui sont, on appelle ça, inapplicables. Elles sont bonnes, mais inapplicables. Mais là, c'est pas la question. Là, elles sont inapplicables à cause de nous. Je parle d'une manière générale de la nature humaine. Et nous voyons ça dans Romains, au chapitre 7, une explication de l'apôtre Paul concernant les lois. Ou la loi en particulier. Il dit des choses d'ailleurs très positives. Il dit pas la loi, c'est mauvais, ça nous détruit, ça nous fait pas du bien. Il dit au contraire, la loi, son origine, elle est bonne. Verset 12, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Un peu plus loin, verset 14, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais, c'est ça le mais je suis charnel. Je suis vendu au péché. C'est ça le problème de pourquoi la loi est inapplicable. C'est à cause de nous, à cause de notre nature humaine, charnelle. On n'arrive pas à mettre ces lois en application. Dans Éphésiens 2, il décrit aussi notre situation telle qu'elle était. Heureusement, telle qu'elle était, je parle au passé. Il dit, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, parle à des chrétiens. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts à cause de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. On est tous, quelque part, héritiers du diable, notre père, hélas. Hein, on a hérité de lui à cause de sa nature de rébellion. On l'est devenu comme lui, Adam et Ève et tout le genre humain. Mais maintenant, on a changé de camp. On a été adopté par Dieu, on est devenu ses enfants et on a reçu la nouvelle nature de Dieu. Donc la loi ne pouvait pas s'appliquer à l'être humain d'une façon normale. Et on ne pouvait pas dire, suffit qu'on ait des bonnes lois, inspiré par Dieu, et tout ira bien dans la société. C'est pourquoi tous les efforts humains qu'on peut faire sont la plupart du temps voués à l'échec. Qu'on dise, il y a un conflit par exemple, mettons-nous autour d'une table pour discuter. Combien de fois on a entendu ça? La table des négociations. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous avez l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, qui veut que l'un l'emporte sur l'autre, qui n'accepte pas certaines choses et qu'on ne peut pas raisonnablement trouver un moyen. Et vous pouvez prendre un conflit économique, dites, asseyons-nous autour d'une table, discutons. Oui, mais il y en a un qui veut l'emporter sur l'autre pour faire plus de business, plus de profit et plus exploiter, et ça ne marche de nouveau pas, etc. Donc, vous pouvez trouver tous les exemples. À un moment donné, vous n'aurez pas cette possibilité de pouvoir résoudre les problèmes, même avec une loi excellente. Et nous avons deux, trois situations où Jésus a rencontré des gens qui sont venus à lui. On va prendre Marc 10, par exemple, au verset 17. Et il y a deux, trois choses qui m'ont impressionné dans ce passage. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut se jetant à genoux devant lui. Des fois, on lit ça très rapidement et on ne pense qu'à la suite, la discussion de Jésus et de cet homme. Mais pensez juste, comment il est venu? Il a accouru vers Jésus. Il s'est précipité sur lui. Il s'est jeté à genoux. On va un peu trop vite des fois dans la lecture. Cet homme avait soif. Soif de Dieu. Soif des choses spirituelles. Et il a posé cette question. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il était vraiment intéressé par les choses de Dieu. Il voulait savoir. Et Jésus répond selon la loi. Il lui dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Donc il fait un petit condensé de quelques lois, et l'autre lui répond, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus lui dit, ben non, tu es un menteur, tu n'as pas observé. Il nous a dit, Jésus l'a regardé et l'a aimé. Il a vu en lui une soif, il a vu un désir de plaire à Dieu, mais il a vu aussi en même temps quelque chose qui manquait dans sa compréhension. Premièrement, Jésus n'a pas cité le commandement principal. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Parce qu'il avait vu que c'était ça le problème. Et souvent dans notre vie à chacun, c'est ça aussi le problème. On découpe notre vie et on observe les commandements de Dieu qui nous conviennent, qui nous arrangent le plus. Et certains, on les oublie. On oublie les choses principales. Là, Jésus le ramène vers l'essentiel, mais quand il lui dit « Laisse tout et suis-moi », qui correspond au commandement premier, il dit « Ah non, ça c'est trop, ça, je peux pas ». Et il est parti tout triste. Il accourt, il se jette au pied de Jésus et il a soif de Dieu. Il reçoit la réponse de Dieu, il n'accepte pas et il part triste. On a une illustration aussi, une situation un peu similaire dans Luc 10. Vous voyez, Jésus se mettait toujours dans le contexte de la parole de Dieu. Il n'a pas dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé pour la vie éternelle. Il l'a d'abord placé, on verra tout de suite pourquoi, d'abord placé dans un contexte de, est-ce que tu observes la parole de Dieu? Oui ou non? Donc Luc 10, versets 25 et 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Cette fois-ci, il n'y avait pas cette sincérité de savoir où est la vérité. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La question semble la même, mais c'est pas dans le même sens. Cette fois-ci, Jésus ne dit pas, voilà ce que tu dois faire. Est-ce que tu as fait tout cela? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et j'aimerais qu'on se pose tous la question, que lis-tu? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis dans la parole de Dieu? Quelles sont les paroles que tu lis? Donc il a répondu, Tu aimeras le... Il avait bien répondu. Vous voyez, lui, il était orthodoxe dans sa réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il a fait le résumé parfait de la loi. Mais, Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Fais-le alors, puisque tu sais la réponse, alors fais-le. Sous-entendu, il le faisait probablement pas, puisqu'il était venu pour l'éprouver. Parce qu'on voit bien dans la suite, lui voulant se justifier, il n'accepte pas la réponse de Jésus. Il veut se justifier et dire, oui, mais ça marche pas. Il cherche des histoires et après on a l'histoire du bon samaritain, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais pour nous, qu'est-ce qui est important? C'est que lis-tu? Qu'est-ce que tu lis dans la parole de Dieu qui te touche, qui te parle et que tu vas mettre en pratique? Avez-vous 10 sur 10, hein, 10 commandements? Et puis, est-ce qu'on a les 10 sur 10 réponses parfaites? Certains pensent, on a des systèmes d'évaluation pour nos tests et pour nos examens. Si vous avez 5 sur 10, vous avez la moyenne, vous passez. Mais avec la parole de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Mais même, c'est très, très exigeant. Dans Jacques, au chapitre 1, il nous est dit... Non, c'est le chapitre 2, pardon. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, il appelle ça la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Un peu plus loin, il dit, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ça, c'est un peu extrême, hein? Attendez, j'ai 99,99% juste, et pourtant, j'échoue à l'examen. C'est là qu'il faut se rappeler ce que Jésus avait dit. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Cette justice qui doit être la nôtre, elle est différente. Elle est différente dans sa nature parce qu'elle ne dépend pas de nous et de notre observation des commandements. Elle ne dépend pas de ça. Elle dépend d'une justice qui est totalement différente, plus élevée. C'est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc la loi, elle est, comme on a dit, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne pour nous montrer qu'on n'arrive pas. Pour nous obliger à capituler devant Dieu et dire, il faut trouver une autre voie. Donc, mon troisième dernier point, pourquoi la loi? Eh bien, la loi, justement, je viens déjà de répondre, elle est là pour ça. Elle est là pour nous obliger à capituler et à montrer que ça ne marche pas à cause de ma nature humaine. Je ne peux pas atteindre Dieu ni la perfection. Un peu de latin, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qu'on vient de lire dans Jacques, je pense que ça doit choquer la mentalité d'énormément de gens. C'est pas possible d'en arriver là. Si quelqu'un, il a fait tout ce qu'il a pu, il a été bon, gentil, généreux, de tout, il a fait une petite pécadille. Ah oui, mais c'est ça qui va te couler. Parce que tu as mis tous tes espoirs dans ta propre justice. C'était la grande erreur de Job. Les gens, des fois, interprètent mal le livre de Job. Job, il était parfait et tout. Il a mis son espoir dans sa propre justice. Il s'est appuyé sur son intégrité. Il a, à cause de sa chute, il a eu une transformation totale, intérieure, extérieure. Et à la fin du livre de Job, il dit oui. J'avais une certaine conception des choses, mais maintenant, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai vu que c'était pas comme ça. Et pour nous aussi, on doit y arriver. Donc, est-ce que ça vous arrive? Comme j'ai dit, la loi est dure. Si vous lisez votre Bible, est-ce que vous vous sentez condamné des fois? Vous devriez. Vous devriez parce que la Bible va vous mettre le doigt sur des exigences. Et vous vous rendez compte que vous, même des exigences d'amour. Vous lisez 1 Corinthiens 13, vous faites votre check-up. L'amour est patient, supporte tout, croit toujours le meilleur, et vous rendez compte, ah non, là j'ai raté. Donc la Bible peut vous condamner, parce que c'est la loi, elle est faite pour ça. Il nous est dit dans Romains aussi, que, on va reprendre Romains 7, Je ne sais pas ce que je fais, je fais ce que je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. On est dans ce tiraillement par moment et on n'arrive pas. Je crois que c'est important, comme par exemple quelqu'un qui serait malade. Le fait d'être dans un déni de malade. Non, j'ai pas de problème de santé. Non, j'ai pas besoin. Non, je n'ai besoin de faire rien du tout. Si vous êtes dans cette situation, vous n'allez pas avoir un médecin. Vous n'allez pas avoir de traitement. Vous n'allez pas prendre de soins. Mais il n'y aura pas de guérison non plus. À un moment donné, quand vous faites un check-up, soit que ce soit physique ou moral ou spirituel, à un moment, il faut le diagnostic. C'est à ça que sert la parole de Dieu. Et la loi en particulier. Elle sert à nous montrer que là, il y a quelque chose à faire. Pour le pécheur, entre guillemets, dans Romains 3, 23, il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et pas dit presque tous. Tous. Donc à un moment donné, pour cette personne, ben, la loi va le condamner. Tu as péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es out, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Pour lui faire prendre conscience qu'il est éloigné de Dieu et l'obliger, entre guillemets, à reconnaître le plan de salut tel que Dieu l'offre à chacun. Mais pour nous, pour les choses qu'on veut changer dans notre vie ou qu'on voudrait qu'elles soient changées, alors nous avons aussi la parole de Dieu qui nous montre certaines choses. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas alors à nous de trouver des choses pour nous en sortir, mais de voir quel est le chemin que Dieu nous montre. Dans Romains 7, il nous est dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Ça montre qu'il y a une transformation. Celui qui n'a aucune relation avec Dieu, il ne prend même pas plaisir à la loi de Dieu. Mais celui qui connaît Dieu, il se rend compte que des fois il y a une dualité, il y a deux choses différentes. Il y a des choses que j'aimerais, que je voudrais faire, et d'autres qui dominent. Et donc l'apôtre Paul a « Misérable que je suis, il a ce cri. » Qui me délivrera de ce corps de mort? Et alors, tout de suite la réponse, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, par la compréhension esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais, et c'est là qu'il y a la révélation de la libération par les... Je crois que c'est important, comme par exemple quelqu'un qui serait malade, le fait d'être dans un déni de malade. Non, j'ai pas de problème de santé. Non, j'ai pas besoin. Non, je n'ai besoin de faire rien du tout. Si vous êtes dans cette situation, vous n'allez pas avoir un médecin. Vous n'allez pas avoir de traitement. Vous n'allez pas prendre de soins. Mais il n'y aura pas de guérison non plus. À un moment donné, quand vous faites un check-up, soit que ce soit physique ou moral ou spirituel, à un moment, il faut le diagnostic. C'est à ça que sert la parole de Dieu. Et la loi en particulier. Elle sert à nous montrer que là, il y a quelque chose à faire. Pour le pécheur, entre guillemets, dans Romains 3, 23, il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et pas dit presque tous. Tous. Donc à un moment donné, pour cette personne, ben, la loi va le condamner. Tu as péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es out, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Pour lui faire prendre conscience qu'il est éloigné de Dieu et l'obliger, entre guillemets, à reconnaître le plan de salut tel que Dieu l'offre à chacun. Mais pour nous, pour les choses qu'on veut changer dans notre vie ou qu'on voudrait qu'elles soient changées, alors nous avons aussi la parole de Dieu qui nous montre certaines choses. Ce n'est pas agréable et ce n'est pas alors à nous de trouver des choses pour nous en sortir. Mais de voir quel est le chemin que Dieu nous montre. Dans Romains 7, il nous est dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Ça montre qu'il y a une transformation. Celui qui n'a aucune relation avec Dieu, il ne prend même pas plaisir à la loi de Dieu. Mais celui qui connaît Dieu, il se rend compte que des fois il y a une dualité, il y a deux choses différentes. Il y a des choses que j'aimerais, que je voudrais faire, et d'autres qui dominent. Et donc l'apôtre Paul a « Misérable que je suis, il a ce cri, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et alors, tout de suite la réponse, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, par la compréhension esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais, et c'est là qu'il y a la révélation de la libération par l'Esprit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, à peine vous avez compris que vous êtes condamné, vous avez tout de suite la solution que Dieu vous offre en Jésus. Et cette fois-ci, dans Romains 8, la libération par l'Esprit se produit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, vous voyez, impossible. C'était une loi bonne, mais elle était inapplicable, parce que la chair la rendait sans force. Et on nous explique un peu plus loin, ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Car, verset 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Elle s'oppose à Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne le peut pas. C'est impossible. 1 Timothée 1 nous dit que de la loi, il faut en faire un usage légitime. Faut pas la prendre à tort à travers pour condamner les gens. Mais il faut la prendre pour la lire, pour se comparer soi-même à cette situation telle que la Bible a décrit et comprendre qu'est-ce que nous pouvons en retirer de bon. Ma conclusion, c'est, se trouve dans le livre de Galates. Galates, c'était l'épître où Paul devait combattre contre le légalisme qui essayait d'emprisonner les gens. Et il dit, mais vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous voulez finir dans la chair. Vous étiez dans la foi, maintenant vous voulez de nouveau vous mettre sous la loi, mais qu'est-ce qui se passe? Il a des expressions vraiment, je crains d'avoir travaillé inutilement, mais vous êtes des insensés. Il y a plein d'expressions comme ça, hein, tous azimuts, et il explique très bien dans Galates chapitre 3 que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi, non pas par la loi, mais par la foi. Verset 13, c'est même très fort. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Elle dit, celui qui vivra par la loi, celui qui la mettra en pratique, vivra. Mais par contre, celui qui ne le fait pas, bah, la loi le maudit. Et donc, il dit, voilà, ça c'est la réponse, c'est justement en Christ. Donc, le contexte de ces enseignements bibliques que je partage avec vous ici, c'est quand même notre civilisation judéo-chrétienne, ou faut-il dire même post-judéo-chrétienne. On veut extirper toutes les influences judéo-chrétiennes de notre civilisation, mais quand on, en même temps qu'on enlève toutes ces influences, on prépare une civilisation qui s'écroule. Parce qu'elle était basée sur ces choses qui ont été données par Dieu. Donc, ce n'est pas un enseignement vieillot et qu'on n'en a plus besoin. On est en pleine actualité. On met les lois de côté, les lois données par Dieu. On en met d'autres à la place qui correspondent mieux à notre société, mais qui n'aident en rien les gens parce que le diagnostic est faux. Et parce que le diagnostic est faux, les réponses qu'on veut apporter sont fausses aussi et personne n'est aidé de cette façon. Donc, nous avons besoin d'un retour à la parole de Dieu et même à sa loi pour qu'on comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer. Et nous, en tant que chrétiens, on fait notre check-up, on confesse ce qui va pas, on demande la grâce de Dieu et puis on n'a plus aucune condamnation en Jésus-Christ et on y va de plus fort dans la grâce de Dieu. Donc, en nous rappelant que il y a des commandements, mais avec une promesse. Amen. Comme un petit ajout en vue de ce qu'on va voir par la suite, il nous est dit dans Galates 3 que la loi nous a été donnée pour nous conduire à Christ. Et je vous laisse avec ce verset 24. La loi a été donnée comme un précepteur ou un tuteur, si vous préférez, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Voyez? Donc c'est ça qui compte. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. dès aujourd'hui? Devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.